Culture Sport, le lundi soir sur Attitude, dès 19h. Les résultats complets du week-end en région, présentés par Christian.
Bonsoir à tous. Comme de tradition chaque lundi, on va faire le point sur les résultats sportifs du week-end, avec des résultats qui sont peu nombreux, puisque comme nous arrivons fin mai, eh bien les compétitions approchent de leur terme. Il y avait malgré tout du football avec en National 2 la CFC qui s'est déplacée du côté de Romorantin, un match important pour les Angoumoisins qui sont toujours en quête d'accrocher la barre des 40 points. Et c'est un déplacement donc important et malheureusement courte défaite comme la semaine dernière contre Bourges, défaite de la SAPC 1-0 du côté de Romorantin. Pour les Angoumoisins, c'était le scénario le pire scénario possible, puisque Romorantin marque au bout de 3 minutes de jeu et derrière la SAPC tentera de revenir en vain. Malheureusement notamment le coup franc de Godfred Bekwe touchera la transversale en première mi-temps, et puis en deuxième mi-temps notamment Arnaud Buisson aura une occasion, une belle occasion. Malheureusement sa frappe ne sera pas cadrée. Une défaite quand même qui a des conséquences pour la CFC. La conséquence principale, c'est que la CFC n'est toujours pas assurée de son maintien sportif. Au niveau des résultats de cette poule de National 2, Bergerac et Moulins font match nul de partout, Andrézieux et Lorient un partout, Gaulle bat Vierzon 1-0, Bourges et Nantes un partout, Romorantin donc bat Angoulême 1-0, Trélissac bat Angers 3-0, Saumur bat le Stade Bordelais 3-0 et les Herbiers gagnent la Chamalière 2-0 au classement général. Les Herbiers reprend l'avantage avec 49 points devant Gaulle 48 points et 3e Bergerac 47 points. La CFC descend à la 10e place avec 39 points. C'est soit 5 points d'avance sur Andrézieux qui est 12e, sachant qu'Andrézieux n'a pas le goulavérage sur Angoulême, donc Andrézieux doit reprendre 6 points à 2 journées de la fin. Et Lorient qui est 11e, il va y avoir 2 11e sur 4 qui descendront. Lorient, il y a 4 points d'Angoulême, donc Lorient doit reprendre 4 points au Charentais. Donc une victoire de la CFC sur les deux derniers matchs suffira au maintien. Des Angoumoisins en régional 1 en poule A, match nul de Cognac 1 partout à Boulazac. Cognac qui malheureusement s'est fait égaliser en fin de rencontre. La réserve de la CFC recevait le SAM, donc Mérignac et ça. Défaite malheureusement des Angoumoisins 3-1, mais des Angoumoisins qui sont sûrs de terminer dans le top 9 grâce aux non-victoires de Cognac et de Hill. La CFC 8e au classement finira au pire 9e. Donc c'est Brive qui est en tête de cette poule. Donc Angoulême est 8e avec 33 points et Cognac est 10e avec 27 points. Une équipe de Cognac qui peut encore croire au maintien sportif puisque Lormont n'est qu'à 1 point devant eux au classement. En R2, en poule A, victoire de Leroy 4-3 à Saint-Savin-Saint-Germain. Leroy confirme sa place sur le podium et grimpe même d'une position en étant 2e. Avec 34 points. En poule B, défaite de Merpin à domicile contre Dompierre-Sainte-Soule 4-0, match nul entre Cognac et La Rétèze 0-0 et victoire de Charente-Limousine à Mignaloux-Beauvoir 3-1. Au classement, Charente-Limousine est 4e avec 33 points, Cognac est dernier avec 7 points et Merpin est 8e avec 25 points. Enfin en poule D, défaite de Jarnac 3-0 du côté de Nontron-Saint-Pardoux et victoire de Sireuil 2-1 contre la réserve de Libourne. Sireuil est 8e au classement avec 31 points. Malheureusement, Jarnac est 11e avec 19 points. En Régional 3 en poule C, c'était le derby charentais entre Ruffec et Confolens. Match nul 1 partout. Ruffec est toujours 3e de cette poule avec 42 points. Confolens est 7e avec 23 points. En poule F, victoire de Ruel, une victoire importante de Ruel 2-1 contre Ribérac. Vindel n'a pas joué contre Thénon Limera puisque cette équipe a fait forfait général. Saint-Aix s'incline 4-3 à Périgord Centre. Soyaux s'impose 2-0 contre La Roche-Rivière. Et la victoire de Pimoyen, 6-2 contre Verneuil-sur-Vienne. Pimoyen qui assure son maintien en Régional 3. Enfin, en poule G, victoire de l'Élance 3B 2-1 du côté de Saint-Loubès. Les hommes d'Adnan Elarchi sont toujours premiers et visent même le plus gros total de points en Régional 3. En district, je vais donner les résultats de la D1 avec la victoire de Basso 3-2 contre l'Élance 3B, la défaite de Saint-Michel contre Moutier 4-1, la victoire de Merpin contre Roulet 6-0, l'Essac bat Champigny 1-0, la Couronne s'impose contre le Roi 3-2, et enfin Brie s'impose contre les Portugais du Gond 3-1. Malgré sa défaite donc à l'Essac, Champigny est promu. Champigny profite de la défaite de Saint-Michel et compte 4 points d'avance sur donc le 3e à 2 journées de la fin. Donc Champigny remonte en Régional 3. Et Basso est en Bolatoshora puisque Basso compte 2 points d'avance sur Saint-Michel à 1 journée de la fin. En bas de tableau, malheureusement, c'est compliqué pour Rouler et pour les Portugais du Gond. En D2, en poule A, Victoire de Mornac 2-1 contre Ruffec. Victoire également de Bélair 3-1 contre Aigre. Victoire de Montbron 3-1 contre Verdi. Victoire de Charente-Limousine 4-3 contre Mansle. Et victoire de Sireuil contre Chasseneuil 3-0. Et sachant que dans le même temps, La Roche-Rivière et Saint-Alex ont fait 2 partout. Sireuil est donc promu en régional, en D1, pardon. Sireuil est, grâce à sa victoire, donc Sireuil est premier avec 5 points d'avance sur Chasseneuil à une journée de la fin. Donc Sireuil jouera en D1 la saison prochaine. En poule B, victoire de Linard 4-1 à Champigny. Match nul entre Saint-Séverin et Sud-Charente 1 partout. Victoire de Montmoreau 3-2 contre Grande-Champagne. Victoire de Ruelle à Châteauneuf 1-0. Victoire de Jarnac contre Nersac 2-0. Et enfin victoire de Saint-Brice à Chazelles 5-0. Paris en poule B, on connaît le promu en D1. Il s'agit de Linard qui remonte en D1. Victoire, donc Linard qui compte 5 points d'avance sur Jarnac. Voilà, une montée logique pour les hommes de Ludo Nanglard qui ont marqué 90 buts en 21 matchs. On va parler enfin de handball avec en National 2 masculine l'ETEC qui jouait donc un match contre les Girondins de Bordeaux. Victoire de l'ETEC 25-23. L'ETEC est plus que jamais deuxième de cette poule avec 53 points. Et sachant que Bruges potentiellement ne pourrait pas monter, peut-être que l'ETEC monterait en National 1 sur tapis vert, à voir dans les jours à venir. Enfin en poule en National 1 féminine en poule A, match nul pardon de l'ACH 28-28 contre Côte Basque pour la dernière journée donc de National 1. Malheureusement dans le même temps Cognac s'incline à Montcoutan 29-26 et donc Cognac terminera la saison sans victoire. L'ACH termine quatrième de ce classement avec 49 points. Plutôt une bonne saison pour les filles de Mike Bidorini. Tout de suite Culture Sport avec Didier et Dédé. Nous on se retrouve la semaine prochaine avec notamment les résultats des finales de Coupe Charente qui se dérouleront le week-end prochain du côté du Stade Lebon. Bonne soirée, au revoir.
Culture Sport, tout le sport en Charente, tous les lundis soirs, 19h.
Hello tout le monde, bienvenue sur le 98.3, 90.7, www.attitudefm.com. C'est les fréquences de votre radio en Charente. Votre radio, c'est Radio Attitude, la première radio de proximité. Donc, vous êtes bien dans Culture Sport, votre émission des sports, chaque lundi 19h-20h30. Nous accueillons aujourd'hui Raymond Payot, donc du VSC Nersaquet. Raymond, merci d'avoir accepté notre invitation, bienvenue.
Non, mais c'est moi qui dois vous dire merci parce que ça va nous faire un petit peu de publicité pour notre épreuve qu'on va organiser le jeudi de l'Ascension. Donc c'est moi qui vous dis merci.
Parfait, bienvenue donc. Dédé, merci d'être avec nous ce soir. Bonsoir Dédé.
Bonsoir Didier, bonsoir Raymond.
Bonsoir Dédé.
Alors Raymond, tu as été également le président de l'ACNR 5, dont j'ai été fier d'être un adhérent. Et j'aimerais... Même si tu es un garçon qui est connu et reconnu de tous, que ce soit au niveau départemental, je dirais également Poitou-Charentes, mais également Nouvelle-Aquitaine, revenir un petit peu sur ton passé, ce qui t'a permis de pouvoir, je dirais même d'avoir pris des responsabilités au sein de la CNR5, et ensuite ce que vous avez engagé avec toute cette équipe d'amis, de copains, sur la suite à donner, notamment sur cette année 2023 qui va être riche notamment en surprises et riche notamment en manifestations. Voilà Raymond, c'était ma première question. Elle était courte pour moi, mais pour toi, elle doit être très longue.
Oui, voilà. Moi, je suis dans le milieu du cyclisme depuis 1973, donc ça fait quelques années. Hein, il y en a beaucoup qui n'étaient pas nés. Donc par l'intermédiaire de mon frère, c'est mon frère qui a commencé à effectuer les courses en FFC et puis on était sous la coupe de Jacques Gestreau, de Raymond Gestreau. Alors on était à l'époque, on était au club de la Rochefoucauld, on y restait quelques années, puis bon, les résultats ont suivi. On a changé un peu de club après pour effectuer des plus grandes courses. On a été à Leroy-Somer, qui en je ne sais plus trop quelle année a été quand même le cinquième club français. On a été nombreux comme licenciés, on avait de bons résultats et on effectuait de belles courses. Et puis petit à petit, après la vie faisant, ça n'a pas toujours été facile de concilier les deux, le travail et puis le sport. Je me suis tourné un petit peu vers le travail. J'ai continué quelques années. J'ai eu quelques problèmes de santé, notamment des sciatiques à répétition. Donc après, ben, j'ai levé un petit peu le pied, puis je me suis retourné vers le travail où j'ai effectué ben, plus de 35 ans de carrière dans le commerce. Et là, je vais tirer le rideau d'ici peu.
On va revenir, si tu le souhaites, sur notamment quand t'as arrêté, je dirais, la compétition, enfin, entre guillemets, et que tu as pris notamment cette lourde charge qui était la belle et épreuve de l'ascension à NR5 quand tu es venu et que tu as pris notamment la présidence. Voilà, ça s'est déroulé comment et on en est aujourd'hui fiers et tu laisses toujours quelques marques, et d'ailleurs nous y reviendrons au cours de cet entretien.
Oui, j'avais couru étant jeune à NR5 en 78-79. Je trouvais que c'était une belle épreuve puisque cette année ça va être le 76e, il me semble, circuit de NR5. Donc ça fait quand même de nombreuses années, et je trouvais un petit peu. Donc j'ai dit, on m'a proposé la présidence. Bon, j'ai accepté parce que même n'étant pas de NR5, puisque je suis pas bien loin, j'habite à Blanzac. Au coteau du Blanzaquet, plus exactement. Donc, je tenais à ce que cette épreuve perdure, parce que c'était une des plus belles épreuves de Charente. Donc, c'est pour ça que j'avais accepté. Et puis, on avait une petite équipe qui m'entourait, qui d'ailleurs, tu en faisais partie, et tu en fais toujours partie, Dédé. Hein.
Oui.
Donc, c'est pour ça que je voulais que cette épreuve continue à perdurer.
Donc, ensuite, il y a eu quelques difficultés, je crois, à maintenir, notamment par le passé. Il y avait une course première catégorie élite, et donc au fil des années, Raymond, il y a eu des faits qui aujourd'hui, vous avez tourné la page.
Le peloton se rétrécissait d'année en année, donc on a choisi une autre orientation. On a dit on va acter un petit peu notre organisation pour les jeunes. Donc cette année ce sera les juniors, hein, 18-19 ans. Les pelotons sont un petit peu plus étoffés, même si en Charente on a des difficultés à avoir des jeunes, hein. Je sais pas, j'ai pas la liste d'engagés puisque c'est mon ami Michel Coudray qui s'en occupe. Et Michel qui a quelques petits problèmes de santé actuellement, j'espère qu'il va se remettre sur pied rapidement pour qu'il puisse nous seconder, nous être avec nous, avec toute l'équipe pour NR5, quoi. Donc c'est pour ça qu'on avait voulu relancer un petit peu cette épreuve avec les jeunes.
Voilà, donc il y a 3 ans maintenant, il y a cette épreuve nationale junior. Alors, pour ceux qui nous écoutent, ça n'a pas toujours été simple.
Non, c'est pas simple. Et puis les organisations maintenant de d'importance, surtout nationale, sont assez compliquées à organiser. Et puis on emprunte les courses cyclistes, empruntent la voie publique, et c'est compliqué de barrer les routes, d'assurer une bonne sécurité. Il nous faut, on est à plus de 60 bénévoles pour sécuriser ce circuit à NR5 qui fait un 8, qui est un très beau circuit puisque c'est pas la première année qu'on l'organise. Des gens déjà de loin sont déjà venus et ils reviennent encore cette année parce qu'ils ont trouvé que le circuit, que le site était bien, se prêtait bien à la compétition, quoi. Mais c'est difficile de trouver les bénévoles pour organiser ces épreuves.
Avant de poursuivre sur la route, on va faire un bref passage, si tu veux bien, à Émoutier. Où là, il y a eu ces cyclocross. On pense à notre ami Opi qui nous a quitté il y a quelques mois. Et dans ces cyclo, alors comment, pour attirer les professionnels, est-ce qu'il y a une filière? Comment on prend contact avec les professionnels pour qu'ils viennent participer au mois de décembre à ce cyclocross des Moutiers?
Ça a été beaucoup du relationnel avec Maxime, donc qui était un copain à moi. Il se déplaçait sur de nombreuses épreuves professionnelles, et puis il était connu dans le milieu, hein, puisque depuis dans les années 70, il commençait à fréquenter toutes les grandes épreuves de France. Il se déplaçait beaucoup et il était connu auprès des professionnels. Et puis après c'est le budget qui décide aussi, hein. Si on a un bon budget, les frais de déplacement, on participe aux frais de déplacement des participants, et puis ça les fait venir, hein.
Avant course et après course, comment on côtoie les professionnels? parce que on a toujours tendance à ne pas s'approcher, ou on évite les gens justement d'aller trop près. Comment on peut les aborder et comment tu les as abordés avec toute l'équipe de la CNR 5?
Oh ben ils sont accessibles, hein. Bon, c'est à nous à juger si on peut les déranger un petit peu, mais c'est sûr que s'ils arrivent, s'ils sont épuisés ou autre, on va pas les déranger, ou s'ils sont en pleine préparation, c'est à nous à voir aussi. Il y en a qui sont très accessibles, avec qui on peut discuter facilement. Il y en a d'autres, bon, on connaît après avec l'ancienneté, puis avec le métier, qui on peut aborder, et puis par l'intermédiaire d'un tel, on peut contacter un autre, quoi. Ça se fait pas toujours directement. Il y en a qui sont plus simples à aborder que d'autres. Ben c'est pareil. C'est les connaissances qui nous font qu'on les aborde ou on les aborde pas, quoi.
On peut citer un ou deux noms.
Oh ben oui, j'ai l'Union Calumogène, qui sont accessibles, qui reviennent tous les ans à Émoutiers. Il y a aussi Miguel Martinez, hein, qui est, même s'il a un palmarès assez impressionnant, est très accessible. Et puis ben vous voyez, Miguel, il a amené son frère, il amène son fils, donc après il y a la tribu qui vient, hein. Et puis si on sait les accueillir et faire ce qu'il faut, ben les gens ils reviennent d'année en année.
Vous avez une relation après la course? Est-ce que vous vous réunissez, vous les professionnels, les organisateurs, pour quand on se sépare comme ça, avant de se quitter?
Ah oui, non, il y a toujours un petit briefing de départ après l'épreuve. On se revoit, on en discute, on voit un petit peu ce qui aurait pu être amélioré ou autre. Ils nous donnent des idées aussi, et puis non, ça se passe très bien, quoi. Leur intérêt à eux aussi, les professionnels, c'est qu'il y ait des épreuves pour qu'ils puissent participer, hein, un maximum. Quand on fait le décompte des critériums après tour, il y en a beaucoup moins qu'avant, quoi, hein. Donc pour eux aussi, il y a un manque à gagner quand il y a moins d'organisation de critériums. Maintenant, il y a le plus près qu'il y a dans notre région, c'est le critérium, je vais m'en rappeler peut-être. C'est pas loin de chez nous.
Celui de Marcolès, dans le Cantal.
Non, il y en a plus près. Castillon-la-Bataille, voilà, ça y est.
Ah, voilà. Castillon-la-Bataille, ouais. Je cherchais.
Voilà, un très beau critérium d'ailleurs, qui est organisé par un monsieur qui n'est pas tout jeune. Lui aussi voudrait bien passer la main, mais c'est difficile de trouver la relève, quoi, derrière. Et c'est le problème dans beaucoup de domaines.
Quelle image que tu garderas en tant que président sur Émoutiers?
Sur Émoutiers, ben. Alors Émoutiers, c'était un petit peu particulier. Je l'ai organisé. C'est mon ami Maxime qui est venu me demander. Donc Maxime, on se côtoyait très très souvent, et puis depuis de nombreuses années, il était venu me demander. Bon, j'avais dit oui parce que c'était un bon copain, mais on n'était quand même pas proche de Émoutiers. C'était pour lui rendre service que je l'avais fait. D'ailleurs, depuis l'an dernier, on ne l'organise plus, puisque c'est le club de la Rochefoucauld qui l'a repris en main. Et je trouve que c'est beaucoup plus logique, puisqu'ils sont juste à côté. S'il y a quelque chose à, ou des réunions ou autre, c'est beaucoup plus pratique pour eux aussi pour intervenir. Et puis, ils sont un petit peu plus spécialisés dans le domaine du cyclocross, puisqu'ils en organisent de nombreux, alors que nous, au NERSAC, c'était vraiment pour rendre service, quoi.
L'image donc que tu garderas de ces deux années en tant que président sur Émoutiers?
Oh ben c'est encore un autre monde, puisqu'il y a les professionnels, et puis ben le niveau, on voit un autre niveau que les petits cyclocross régionaux qui sont organisés dans notre région. Ça nous a permis de côtoyer d'autres personnes, d'autres gens très très intéressants, et un autre niveau, quoi.
Le monde professionnel.
Voilà, dans le monde professionnel, ouais. Et on s'aperçoit justement que l'hiver, c'est encore autre chose. L'hiver, les professionnels sont beaucoup plus décontractés, sont beaucoup plus accessibles, quoi. Ils sont pas en pleine saison comme ça peut être au mois de juin, juillet. Là, c'est beaucoup plus compliqué. Ils sont beaucoup plus pris aussi.
Oui, il y a ceux qui préparent la saison route, et puis ceux évidemment qui sont des spécialistes comme Martinez, sont des spécialistes du VTT.
Oui, voilà, ouais, il y a les spécialistes qui aiment bien le cyclocross, qui font
également
une bonne préparation. Ça fait une bonne préparation. Je me souviens, nous, quand on était beaucoup gamins, hein, on faisait du cyclocross, on en faisait toujours quelques-uns pour nous préparer, pour l'agilité. Ça fait travailler les muscles, ça nous entretenait pour préparer la saison de route.
J'ai également entendu dire que tu avais été également chez Raymond Poulidor.
Oui, ben avec Raymond, on se voyait une fois par an à peu près, deux fois. Et je suis ami avec le président du club des supporters de Raymond Poulidor. Et il y a pas longtemps, je suis allé à Saint-Léonard de Noblat. Il y avait tout un week-end qui était organisé en l'honneur de Raymond, et on a fait une randonnée qui était vintage d'ailleurs. Mais dans le Limousin, c'est pas toujours facile. Il y a quand même du dénivelé. Mais ils ont un groupe de supporters qui sont très sympas, qui vont venir d'ailleurs. Une partie va venir à Nersac le jeudi de l'Ascension. Donc ils vont faire le déplacement pour. Ils étaient déjà venus d'ailleurs, donc ça devrait être très très sympa.
On va revenir sur la première année où notamment les juniors au niveau national s'étaient donc déplacés. Et là, ça a réuni pas mal d'amoureux de la petite traîne. Pourquoi ? Parce que l'organisation elle-même. Et moi, j'aimerais que tu parles de l'organisation parce que c'est important. On a les acteurs, mais c'est vrai que l'organisation on a toujours tendance, comme ils sont dans l'ombre, de ne pas mettre la lumière. Et donc, j'en profite sur cette émission, toi qui as fait les trois, hein, président, spectateur, organisateur, coureur. Voilà. Il a fallu s'organiser le temps passé pour aller chercher les bénévoles, puisque si mes souvenirs sont bons, on passe sur trois communes. Je crois qu'il y a Saint-Michel, la Couronne, oui, et Nersac. Comment vous êtes pris avec toute l'équipe?
On a fait marcher notre national, et puis c'est souvent les amis, et c'est assez compliqué. Mais les bénévoles, bien souvent, veulent rester un peu dans l'ombre. C'est vrai qu'on les remercie jamais assez, mais si on n'avait pas nos bénévoles, on pourrait pas organiser, hein. C'est compliqué. Mais certains veulent pas qu'on parle d'eux, qu'on les mette en avant. Ils aiment bien, ils participent, et ça leur suffit comme ça, quoi. Mais c'est vrai que c'est de plus en plus compliqué, et puis c'est de plus en plus dangereux, quoi. Les circuits à trouver sont compliqués. Il y a de plus en plus l'infrastructure routière est quand même aménagée maintenant pour tout faire pour ralentir les automobilistes. Donc en vélo, c'est pareil, ça arrive à être dangereux. Il y a de plus en plus de ronds-points. Donc les circuits sont pas faciles maintenant.
Cette ascension, cette fameuse côte du Peu qui a aujourd'hui le mérite également de s'appeler l'épreuve ou la ligne Roger Soula. Toi, tu l'as côtoyé. C'est un personnage au niveau du cyclisme.
Roger, j'ai toujours connu.
Je te coupe 30 secondes pour dire que depuis 1974, on a Stéphane Bochot qui est quand même au club de la CNR5. C'est pour l'histoire.
Oui, Stéphane avait été licencié, et il est maintenant encore licencié à la CNRSAC, mais il avait couru sous les couleurs de la CNRSAC, quoi. Et là, c'est un peu son club de cœur, quoi. Donc c'est pour ça que il s'investit aussi en plus, mais c'est pas toujours facile suivant les professions suivant les professions, c'est difficile. On n'a pas trop de temps de libre quelquefois. C'est pour concilier les deux, c'est pas toujours simple, hein.
J'aimerais qu'on parle, Raymond, de Roger que tu as côtoyé, que tu lui en tant que spectateur, organisateur, et ce qu'il a fait au sein du club de la CNRSAC.
Roger, on l'a eu pendant de nombreuses années, au club de Nersac, il faisait tout, il était toujours disponible. S'il fallait conduire la voiture, il conduisait la voiture. S'il fallait la laver, il la lavait. S'il fallait masser les coureurs, il les massait. Il préparait les vélos. C'était notre
cheville ouvrière.
Ouais, voilà, c'était la cheville ouvrière. Lui, c'était l'homme à tout faire. Et puis on l'a côtoyé, toujours disponible. Lui, il était toujours disponible. Et puis ce qu'il faisait, c'est qu'il réservait quand il y avait quelque chose d'organisé par la CNRSAC, il bloquait ses dates. Alors que certains, maintenant, c'est pas toujours le cas, quoi. Lui, quand il y avait quelque chose, cette date était réservée pour la CNRSAC.
Oui, c'était des dirigeants à l'ancienne, hein, qui se dévouaient corps et âme pour l'association sportive auquel ils appartenaient.
Oui, voilà. Et c'était d'abord leur association, et après le reste, quoi. Hein, ils dépassaient leur loisir après, ou d'autres, même des fois des repas de famille. C'était d'abord, s'il y avait une organisation, c'était d'abord le club, et puis après c'était le reste, quoi. Alors, c'était vraiment à l'ancienne, Et bon, c'est pour ça que d'ailleurs on a choisi que le circuit porte son nom, parce que je l'ai toujours connu sur le circuit.
Il y a eu ces juniors, il y en aura qui vont arriver bientôt. J'aimerais que tu nous en parles un petit peu de ces juniors qui sont pratiquement chez les professionnels aujourd'hui. Et ceux que l'on va notamment accueillir le jour de l'ascension, est-ce qu'on peut avoir un petit peu le nom des clubs si nous n'avons pas les noms des participants? Et aujourd'hui, il y a combien de clubs qui seraient intéressés à venir à l'ascension à Nersac?
Là, je peux pas trop en parler puisque c'est Michel Coudray qui s'est occupé de contacter les équipes. Maintenant, c'est les juniors individuels qui vont se déplacer à Nersac sont très peu nombreux. C'est surtout des équipes, hein, parce qu'on a des équipes qui viennent de loin, de Marseille. Je crois que c'est l'équipe la plus éloignée, hein.
Ouais. Alors, je viens de voir également, il y a 2 heures, il y a une autre équipe qui va venir, c'est les U19, Fenu, formation 36.
D'accord, ouais, ben je l'ai pas trop suivi parce que c'est vrai que je suis un petit peu pris moi aussi en ce moment, et comme on devait se rencontrer avec Michel dimanche, mais il a eu des problèmes de santé, on n'a pas pu se rencontrer, donc on en a pas beaucoup parlé.
Bon, on va lui souhaiter un bon rétablissement à Michel et de le retrouver bien vite, quelqu'un qui œuvre également au niveau de la sécurité. On peut en parler du Route pour tous parce que on est aussi partenaire de cette Route pour tous.
Oui, tout à fait. Depuis le début, on fait partie de l'aventure avec Michel. Il était venu me voir et me le proposer au club, donc j'ai tout de suite adhéré. Et puis l'ensemble du club a adhéré et on continue à œuvrer pour ce qu'il nous propose et tout ce qu'il défend pour la sécurité, pour les routes, les cyclistes. C'est vrai que c'est de plus en plus problématique. On voit que toutes les semaines, il y a des cyclistes qui sont renversés.
Oui, il y a eu quelques nouveautés hein, depuis quelques mois, je dirais même depuis 2 ans avec le département de la Charente, avec ses panneaux verts.
Oui. Oui, ils continuent à en installer. Ça fait réfléchir certains, c'est vrai que c'est assez compliqué, on ne sait pas trop comment s'y prendre pour faire réagir un peu les automobilistes, hein. Quoi mettre en œuvre, donc les panneaux c'est une bonne idée aussi, hein. Bon, toutes les idées sont bonnes à prendre, mais après il faut pouvoir les mettre en application et c'est pas toujours simple.
Quelles sont les mesures que tu conseilles? Bon, moi je m'ai fait de compétition, mais quels conseils que tu aimerais donner aux jeunes qui vont donc arriver et ceux qui aujourd'hui sont toujours en compétition?
Les conseils, on a beau leur en donner, de pas trop se prendre la tête et puis de pas être professionnel avant de l'être vraiment, parce que certains c'est pareil, ont un peu la grosse tête, sont équipés comme des professionnels. Moi là cette année je m'occupe un peu plus de la partie vintage et je pense que certains devraient voir dans quelles conditions on pédalait il y a 30 ou 40 ans. Ça a évolué, mais faut pas non plus être comme certains, vouloir toujours le plus cher, le plus beau. C'est pas ce qui fait avancer non plus, hein. Ça aide, mais il n'y a pas que ça non plus, hein. Donc les jeunes, déjà apprenez à pédaler, à respecter les autres, à être prudent aussi, même dans les pelotons, parce que certains prennent de gros risques, hein. Faut faire attention aussi, c'est que du sport, faites donc attention. Et puis quand vous allez à l'entraînement, respectez bien le code de la route, prenez votre casque, c'est pas le poids que ça fait sur la tête. Et puis même si ça fait un peu plus lourd, c'est pas grave, ça nous forme, ça nous muscle aussi, hein, donc mais surtout faites-vous plaisir avant tout, quoi.
Une fois le vélo, l'organisation, aujourd'hui on découvre un autre Raymond, toujours dans le sport, mais celui-ci est autre que la compétition. Peux-tu nous parler du vintage et peux-tu nous parler également de Saint-Cloud, ces grandes manifestations qui accueillent et qui ont accueilli quelques centaines de personnes?
Ouais, je me suis tourné un petit peu sur le vintage parce que je trouve que toujours faire la course au modernisme, ça n'apporte pas que du bon. Et puis le vintage va nous permettre de retrouver des vraies valeurs, les valeurs que beaucoup n'ont pas connues, bien sûr, les valeurs d'autrefois. C'est une autre philosophie de la vie, le vintage, hein. Le vélo à cette époque, il fallait se glisser dans les tenues, le confort dans les maillots était tout à fait autre. Le vélo, c'est pareil, le vélo tenait un peu moins bien la route que maintenant. Le freinage, les dérailleurs, enfin c'est tout à fait autre chose. Et je trouve que c'est sympa. Ça m'arrive souvent, moi, j'ai des vélos modernes hein, comme tout le monde, mais de prendre le vélo de 74, d'aller faire un tour. On découvre autre chose et puis c'est là où on s'aperçoit que à cette époque-là ils étaient quand même forts parce que vu les braquets qu'ils employaient et puis ce qu'on emploie maintenant avec les braquets qu'ils avaient, ils arrivaient à faire aussi de très belles manières. Et le vintage, ben c'est aussi une tenue vestimentaire différente, c'est tout à fait autre chose et je pense que les gens ils aiment bien aussi hein, il y a des émissions à la radio, à la télévision, qui parle de plus en plus du vintage, et certains se tournent de plus en plus. Ben voilà, on se prend moins la tête. C'est ce que nos parents, grands-parents ont connu. On voit un petit peu tout ce qu'ils ont traversé. Voilà, c'est pour ça que je me suis tourné un petit peu pour faire découvrir aussi notre vintage.
Alors il y aura pas que le vélo, si j'ai bien compris, il y a aussi les voitures anciennes.
Il y aura quelques voitures anciennes. J'ai eu des contacts aussi avec quelques motos. Donc bon, c'est toujours pareil. Les inscriptions arrivent au compte-gouttes, comme d'habitude. On est habitué. La plupart, ils attendent de voir un petit peu les conditions météo. Et puis, c'est toujours au dernier moment que les inscriptions vont affluer, quoi. Enfin, je l'espère. Il y aura en principe les motards aussi de la gendarmerie d'autrefois qui devraient nous accompagner, nous escorter.
D'accord. Il y a eu aussi sur un hippodrome, je ne me rappelle plus très bien, une épreuve avec il y avait Didier Renaud qui était aux commandes. C'était sur un hippodrome où par le passé il y avait c'était une piste. C'était où ça?
Alors c'est pas un hippodrome, c'est une piste. Hein, c'est à Champagnole en Charente-Maritime. Ben l'an dernier, c'était la centième réunion. Donc là aussi, c'est une classique pour nous. J'avais participé moi en 79, donc sur invitation, parce que c'est un pré qui avait été aménagé en vélodrome. Les virages sont relevés, c'est de l'herbe. Donc et puis ça fait depuis l'an dernier, c'était la centième édition. Ces épreuves-là réunissaient de grands champions, hein, puisque des champions qui ont fait, même qui ont gagné le Tour de France, se réunissaient sur ce vélodrome pour passer une journée. C'est tout à fait autre chose, quoi.
Je m'interrogeais sur le vintage. C'est quelque chose qui est très à la mode. Avec, on voit ça par exemple pour la compétition automobile. Il y a aussi les tenues cyclistes avec le maillot de la Molteni, par exemple, des choses comme ça. Donc c'est très très en vogue, ça, Raymond.
Ah oui, tout à fait. Ben moi j'ai quelques maillots. J'en ai un qui a appartenu à Raymond Poulidor. J'en ai un qui m'a été offert par Bernard Thévenet, le maillot Peugeot, quoi, hein, à Damier. Donc j'aime bien collectionner aussi les maillots. Le seul qui me manque, c'est celui de mon premier club à La Rochefoucauld en 74. Ben c'était de la laine à l'époque, la matière était différente et puis les mythes se sont mises dedans et me l'ont complètement
mangé.
Ouais, j'ai rien pu conserver, quoi. Et je le regrette. Donc j'avais lancé un petit appel. S'il y en a qui ont encore des maillots de La Rochefoucauld, je suis preneur.
On peut donner les horaires, Raymond, sur cette journée du 18 mai.
Oui, bien sûr. Donc le regroupement se fera le jeudi de l'Ascension, le matin, donc à partir de 9h, on offrira le café. Enfin, c'est pas moi qui l'offre, c'est la municipalité de Nersac qui va nous offrir le café. Et on fera après un départ à 9h30 pour 3 circuits. Donc ça sera au choix en fonction des gens, ils choisiront leur circuit. Le petit circuit sera le circuit de l'après-midi des juniors qui fait 12 km. Il y aura un autre circuit qui fera 27 km et le grand circuit, j'appelle ça le grand circuit, 47 km. On ira dans la région. Bon, j'ai voulu faire découvrir la région de Nersac et puis on ira un petit peu vers Sireuil, sur Saint-Simeux aussi, parce qu'on a de beaux coins sur la vallée de la Charente. Je voulais pas le faire trop dur pour pas décourager les gens non plus, pour que ce soit accessible à tout le monde. Et il n'y aura pas que le vintage. Moi, je l'ai pas ouvert seulement au vintage. Je l'ai ouvert à tout type de vélo parce qu'on m'avait demandé. Bon, les anciens sont souvent équipés en vintage, mais leurs épouses n'ont pas toujours des vélos adéquats, ou alors ont des vélos électriques. Donc j'ai préféré l'ouvrir à tout le monde, qu'elle puisse nous accompagner, que tout le monde puisse participer. Certains ont des VTT, donc ce que je veux, c'est réunir le plus grand nombre possible de cyclistes et que ça soit accessible à tous. Donc voilà, donc 9h30, après on choisit notre circuit, et puis à l'arrivée, le pot de l'amitié. Et bon, cette participation est payante. On a pris une petite inscription parce que il y aura une bourriche qui donnera droit au tirage de deux vélos. Deux vélos vintage sont à gagner. Donc voilà un petit peu le déroulé de cette matinée. Et l'après-midi, c'est plus réservé donc au National Junior.
Cette manifestation, Raymond, c'est l'une manifestation peut-être unique en Charente ou il y en a plusieurs?
Ma connaissance, il y en a pas beaucoup d'organisés. Bon, j'en ai organisé une il y a quelques années à Saint-Cloud. Donc ça a été un petit peu arrêté parce que c'était compliqué d'organiser en même temps que la fête de la Cagouille. Le vélo prenait un petit peu trop de place par rapport à la fête de la Cagouille. Donc la commune et puis l'organisateur qui était avec moi a préféré continuer uniquement avec les Cagouilles, quoi. Mais autrement, non, ça avait commencé un petit peu. Il y a une association qui avait essayé d'organiser un truc comme ça sur Cognac. Mais autrement, non, j'en connais pas. Ça se fait dans d'autres régions, puisque il y a 15 jours, on a été, nous, participer à une balade vintage comme ça, à côté de Saint-Léonard de Nobla, à Royères exactement. Et on était 156 participants. Et puis c'est pareil. Ouais, là-bas c'est la cinquième année qu'il organise, donc ça plaît bien. Et important, il faisait froid, on a eu du vent, et puis il y a beaucoup de côtes. Ma femme, qui était en vélo vintage aussi, a trouvé qu'il y avait beaucoup de côtes là-bas. Ça sera plus facile à Nersac, hein, je vous rassure.
98.
Même Dédé va pouvoir sortir son vélo.
Oui, voilà. T'as raison.
98.3, 90.7, c'est les fréquences de Radio Attitude, votre radio en Charente. www.attitude.fm, c'est le site internet pour pouvoir nous écouter partout en France et à l'étranger. www.attitudefm.com, donc, c'est Culture Sport, votre émission des sports, chaque lundi 19h-20h30. Merci de votre fidélité. Nous retrouvons Raymond Payot qui répond aux questions de notre ami Dédé.
Raymond, t'as donc maintenant tourné pas tout à fait la page parce que des garçons comme toi, t'as apprécié partout où tu es passé. Moi, je peux en témoigner puisque je voyage beaucoup et donc la succession a été quand même pour aussi un jeune. Hein, c'est Mathieu qui a pris Mathieu Dufour qui a pris donc ta succession. Voilà, et il en est, Mathieu, où là actuellement sur l'organisation, parce qu'on est à 15 jours.
Bon, bien, là, ça se passe relativement bien avec Mathieu, mais c'est pareil, il a un travail qui est très prenant et c'est pas facile pour lui de concilier les deux. Mais on essaye de toujours être à ses côtés, de faire le maximum pour que le club fonctionne. Mais c'est vrai que c'est assez compliqué. Les gens sont pas des professionnels, c'est que des bénévoles et c'est pas facile. Certains s'impliquent, d'autres s'impliquent pas beaucoup, veulent bien consommer mais ne veulent pas participer aux organisations. On est habitué, hein.
Est-ce un regret, Raymond, sur ta présidence à Nersac, sur le fait que il manque quelque chose, il manque la jeunesse, cette école de cyclisme?
C'est vrai que si on avait une école de cyclisme, ça serait peut-être un peu plus facile de recruter. Et puis, mais pour avoir une école de cyclisme, il faut trouver la bonne personne qui veuille bien s'en occuper, qui soit disponible, qui ait les diplômes et qui soit aussi dans un secteur proche de Nersac. Quand on habite à 30 ou 40 kilomètres, c'est un peu plus compliqué maintenant avec les frais de déplacement qui sont de plus en plus élevés. Donc les gens, ils regardent un petit peu, quoi. C'est vrai que si on avait la possibilité de trouver quelqu'un qui veuille bien s'occuper d'une école de cyclisme à Nersac, ça changerait tout de suite la donne, hein. Il y aurait beaucoup plus de licenciés.
C'est peut-être le couac que tu as eu, peut-être, c'est ça, cette jeunesse qui n'a pas peut-être aussi répondu à l'invitation, malgré les demandes que vous avez faites, voilà, pour le samedi, pour le VTT, même le VTT, c'est un,
ouais, voilà, ouais. Développement. On n'a pas réussi à mettre en place une école de cyclisme ni de VTT. C'est vrai que il fallait trouver la personne qui était disponible et qui voulait s'investir un petit peu, parce qu'il faut y passer quand même du temps pour que une association fonctionne. Et ben dans un secteur proche de Nersac, on n'a pas réussi à trouver la bonne personne. Bon, Mathieu, j'espère, je lui souhaite, hein, qu'il la trouve. Et puis bon, il y a toujours eu dans beaucoup de clubs comme ça des hauts et des bas, il faut des fois peu de choses pour que ça reparte. Il faut arriver à trouver les bonnes personnes, quoi.
Peut-être le Furci qui a le sur la couronne à côté, en Goulême,
ouais, voilà, c'est un des plus gros clubs de Charente avec La Rochefoucauld. Ils ont des bénévoles qui ont du temps disponible, qui s'en occupent bien. Donc tout de suite on voit la différence, quoi, hein. C'est parce qu'ils ont réussi à trouver, à motiver les bonnes personnes autour de leur commune.
Raymond, avec l'apparition des disciplines comme le VTC et le VTT, est-ce que ça a siphonné des entrées dans le monde du cyclisme sur route?
Alors justement avec toutes les nouvelles disciplines, le gravel notamment, puisqu'il y a des épreuves qui sont de plus en plus organisées, les gens se détournent un petit peu du vélo de route, pour la simple et bonne raison, c'est que le vélo de route est, comme je le disais tout à l'heure, de plus en plus dangereux, alors que dans le VTT et puis le gravel, on a quand même un petit peu moins de danger, puisqu'on ne fait que traverser certaines routes, ou alors la plupart du temps c'est des toutes petites routes ou des chemins blancs. C'est pour ça que les gens maintenant se détournent de plus en plus de la compétition, et on voit que les pelotons sont moins étoffés dans n'importe quelle fédération, hein, que ce soit l'UFOLEP ou que ce soit la Fédération Française de Cyclisme. Les gens, ils regardent un petit peu maintenant. C'est vrai que on fait attention, on ne veut pas partir sur la route et puis ne pas rentrer, comme c'est arrivé quelquefois. Donc c'est pour ça que maintenant c'est de plus en plus difficile aussi d'avoir des pelotons imposants comme on avait il y a seulement 7-8 ans, hein. Il y a 10 ans, il y avait des gros pelotons dans n'importe quelle organisation, que ce soit même les randonnées, il y avait beaucoup plus de participants autrefois que maintenant. Les gens regardent aussi aux frais de déplacement, donc font des petits groupes et préfèrent rester un peu dans leur secteur, comme moi je le fais aussi, hein, je le reconnais. Je préfère prendre mon vélo en partant de chez moi, faire 50-60 km. Si je vais faire participer à une randonnée, je vais faire 120 km, même si c'est que 50 pour y aller en voiture, 50 pour revenir, ça fait 100 km. Et je vais faire 50-60 km à la randonnée, donc je vais faire plus de voitures que de vélo. Bon, on y va de temps en temps quand on peut et quand le temps le permet aussi, pour rencontrer les copains, quoi. Mais c'est vrai que beaucoup maintenant se sont un petit peu détournés de toutes ces organisations, un peu à cause de tout ça, quoi.
Oui, moi je le vois le week-end quand je fais commenter notamment le cyclocross. J'ai été l'autre jour à Cormeur-Royal, je vais aller notamment à Jonzac le 10. Les pelotons, ouais, c'est 200 engagés, tout en sachant que c'est vrai que les gens se tournent vers le VTT parce que ça se passe aussi en famille. Il y a le fils, la maman et le papa.
Oui, voilà, c'est plus convivial. Ben, j'étais dimanche à Châteauneuf, il y avait le championnat régional de VTT qui était organisé par l'excellent club de Châteauneuf. C'était un de mes clubs aussi. Je suis parti de ce club pour aller à Nersac. Donc, mais j'ai toujours gardé d'excellents contacts avec eux, et ils s'en sont très bien sortis. Une belle épreuve, un petit peu dure peut-être pour les non spécialistes, puisqu'il y avait quelques routiers qui ont été s'essayer un petit peu. C'était peut-être un petit peu dur, mais c'était vraiment du vrai VTT, quoi, avec des beaux passages et un beau circuit bien tracé, et une belle journée.
Ouais, on peut le constater, hein, on va le constater notamment lors de l'épreuve nationale junior à Nersac, même au niveau du département, en ce qui concerne les juniors, pas beaucoup de relèves.
Non, ouais, c'est assez compliqué, quoi. Et puis, on le retrouve à tous les niveaux. En Charente, on a peu de licenciés. J'ai pas le nombre de licenciés juniors, mais c'est vrai que c'est compliqué de les faire venir à la route, quoi.
J'ai déjà participé à l'épreuve de l'ascension en Ersac en tant que coureur.
Ah oui, plusieurs fois, je l'ai fait plusieurs fois. Et je me souviens bien des premières années, dans les années 78, 79, c'était des pelotons de 140 participants. On avait une ou deux grandes boucles, on faisait des grandes boucles. Et puis on finissait par le petit circuit de la Côte du Peu, quoi. Et je me rappelle, j'avais terminé premier de ma catégorie une année et j'étais 25e. Il y avait les catégories A et B et j'étais 25e. Donc vous voyez qu'il y avait, les premières catégories à l'époque, les catégories A étaient très nombreuses au départ. Hein. Et cette année-là, je me souviens, c'est un coureur qui était passé professionnel après, qui avait gagné. C'était Francis Castin, qui était de Bordeaux.
Ah oui.
Qui avait été professionnel de nombreuses années, qui avait même, je crois, gagné une étape sur le Tour de France. C'était un grand sprinter à l'époque. Donc non, Ersac, c'est les anciens se souviennent d'ailleurs. Pas mal d'anciens vont venir à Ersac ce jeudi 18 mai pour se retrouver entre eux, puisqu'il y a notre association, je fais partie d'une association d'anciens cyclistes, et on va faire une petite exposition justement sur le vélo un peu vintage. Il y aura aussi une autre exposition d'un monsieur qui fait des modèles réduits de vélo, les petits coureurs comme on jouait dans le sable avec.
Avec Eddy.
Il va venir nous faire une exposition avec il y aura plusieurs centaines de coureurs avec les maillots, une reproduction comme vous pourrez le voir à la lettre près, décoré, la couleur, tout vraiment très bien fait, quoi.
Ouais, c'est très important de présenter cette journée de l'ascension où on va découvrir des choses. Celle-ci, par exemple, était, voilà, on le découvre à travers Culture Sport ce soir.
Ouais, voilà, ouais, non, il faut faire découvrir. Et il faut que le vélo revienne un petit peu festif aussi. Je trouve que ça, c'est un petit peu perdu. C'est arrivé où les gens se prennent trop la tête. Bon, c'est que du sport. Je me souviens, moi, ben, quand je courais dans les années 80, le village, c'était la fête au village quand il y avait une course de vélo. Alors que là, maintenant, c'est plus, ça dérange. On a l'impression de déranger. On essaye d'apporter une animation dans leur village. Mais on a l'impression que ça les dérange plutôt qu'autre chose. Alors, on sait plus trop bien comment faire, quoi. Il faut qu'on arrive à essayer de les impliquer, les faire participer. C'est pour ça que, bon, un petit tour de vélo comme ça pour se balader pour toute la famille, c'est ouvert à toute la famille, hein. Donc, ça peut-être relancer. On essaye de mettre quelque chose en place, mais bon, on va voir le résultat. Si les gens s'impliquent ou s'impliquent pas. Mais une organisation, elle est réussite si les gens participent aussi, s'ils s'impliquent, hein. C'est pas dû qu'à l'organisateur, hein. C'est aussi à l'implication des habitants et puis des autres, hein.
Te rappelles-tu, on se souvient toujours de sa première victoire. Tu te rappelles, toi, Rémi?
Ah oui, tout à fait. C'était à Benet.
Benet.
C'est où? C'est vers Barbezieux, ça, non?
Non, pas perdu. Non, Benet, c'est à côté de Champagne-Mouton, là-haut. Plus dans le Nord-Charente. Et je m'en rappelle justement très bien parce qu'on était 90 au départ en cadet. J'étais en cadet à l'époque et j'avais gagné au sprint. On arrivait une cinquantaine au sprint et j'avais battu justement Francis Castin qui était très rapide au sprint et puis les Bordelais qui faisaient le déplacement à l'époque. Donc je me rappelle très bien.
Ça a été pour toi le plus mauvais souvenir? Je dis le plus mauvais.
Un des plus mauvais, mais il n'est pas bien loin. Il y a 2-3 ans, c'est ce qui m'a fait arrêter un petit peu la compétition aussi. J'ai été participer à une course de vélo donc en Ufolep à Médis, et puis il y en a
côté de Royan.
À côté de Royan, voilà, qui ont pris des risques. On est arrivé pour la gagne, c'est sûr, mais qui ont été prendre des risques et puis qui ont provoqué une chute. Et je me suis retrouvé dans la chute et j'ai cassé mon vélo. Je me suis fait un petit peu mal. Et c'est de là où ça m'a, de prendre des risques pour aller gagner même une course Ufolep ou alors gagner une bouteille de badois, on va dire. On va pas parler d'alcool, mais pour gagner quoi que ce soit, on ne doit pas prendre des risques. Et c'est tout à fait là, ça, où je me suis aperçu que les gens maintenant faisaient n'importe quoi pour aller gagner. Ils se disputent des fois même parce qu'ils ont perdu une place. Ou c'est là où j'ai vu que la mentalité avait changé et ça m'a j'ai préféré arrêter.
Oui, moi je en tant que commentateur, il y a eu une course à Vervan qui s'est déroulée dimanche avec une chute justement à l'arrivée. C'était en FFC lors d'un sprint. Moi, je conseille, et toi en tant que coureur ou ancien coureur. Qu'est-ce que tu conseilles aux garçons quand ils lancent un sprint? Parce que moi, j'ai vu des trucs, franchement, j'ai peur, j'ai même plus envie de commenter.
Oui, il faut garder surtout sa trajectoire, faut pas non plus prendre de risques inconsidérés, faut mesurer ce que ça peut rapporter même de gagner une épreuve, mais ce que ça peut engendrer aussi si vous chutez, si vous allez à l'hôpital. On est là pour se faire du bien, pour se faire plaisir, donc il faut mesurer les risques, hein. Faut pas non plus c'est pas parce que vous allez faire au lieu de faire troisième vous faites sixième, je vois pas la différence. Pour moi c'est pareil, quoi. C'est pour ça que les gens se rendent pas compte, mais c'est que du sport, surtout maintenant en UFOLEP ou même en FFC, hein. Il y a quelques années, quand on courait dans les années 80, il y avait beaucoup plus d'argent à gagner, il y avait beaucoup plus d'enjeux, et on prenait moins de risques aussi, on se faisait plaisir. Hein. Alors que maintenant, il n'y a rien à gagner et ils prennent des risques. Je comprends pas tout, moi.
Est-ce que la piste aussi a fait que aujourd'hui on a peut-être 3 ou 4 sprinteurs et que tout le monde veut faire le sprint?
Oui, il y en a qui sont pas du tout sprinteurs. Je le vois, ils font des écarts, ils dandinent le vélo un peu dans tous les sens. Ils savent qu'ils vont être battus, mais ils prennent des risques, ils veulent se placer. Moi, quand j'avais aucune chance au sprint ou que c'était trop dangereux, je disputais même pas le sprint. Hein. Je préférais me relever et puis pas prendre de risques. Hein.
Et la piste aujourd'hui à Angoulême, c'est un fait quand même qui est important sur le fait qu'on a pas de sprinter dans le département. Alors qu'on va à 5, il y a une piste à La Rochelle, il y a une piste à 5, Bordeaux et Angoulême, c'est triste quand même, non?
Ouais, Angoulême, c'est le département, c'est le département pauvre en vélodrome, hein, puisqu'il n'y en a pas, il y en a presque dans tous les autres départements, alors que sur la Charente, il n'y en a pas. C'est un peu dommage parce que moi, j'ai fait de la piste, hein, et ça nous apprenait l'agilité, l'adresse, à frotter, hein, parce qu'avec un pignon fixe, faut tourner les jambes, faut pas oublier de pédaler. Et puis non, ça nous apprenait bien à sprinter. Et c'est pour ça qu'aussi, on avait de nombreux sprinteurs à l'époque. Hein, c'est dommage qu'il n'y ait pas que cette piste soit... Bon, maintenant, je pense que ça coûterait plus cher de la remettre en état que d'en construire une neuve, quoi.
À propos de compétition, quel regard tu portes aujourd'hui sur la nouvelle vague des professionnels? Je pense à Pogacar, Van Der Poel, Van Aert, Vingegaard et Van Der Poel maintenant.
Il m'impressionne. Il y a que ça à dire, hein. Mon vieux, il y a un petit groupe là qui sort du lot, quoi. Tous les autres atteignent un certain niveau, se tiennent, mais là ils sont 4 ou 5, c'est vrai, à sortir du lot. Bon, et tous à peu près de la même génération. Maintenant c'est presque des robots, des machines à pédaler. Ils sont préparés, ils préparent. Je vois dans les revues que je vends, c'est des plans d'entraînement. Faut avoir fait des études supérieures pour arriver à comprendre les méthodes d'entraînement ou autre. Alors qu'avant on faisait ça aux sensations. Ils sont vraiment préparés, ils sont impressionnants. J'espère que tout est bien fait, bien organisé, quoi.
Ça va nous donner un beau Tour de France.
Eh ben, si tout le monde est au top, ça devrait être impressionnant comme Tour de France. Oui, oui, oui. Et encore cette année, bon, il y aura quelques absents. Le champion du monde sera pas là, mais l'an prochain, si tout le monde, toutes les équipes et tous les cadors du moment sont regroupés, ça va être assez impressionnant. Mais j'aime bien leur manière de courir parce que c'est quand même des attaquants. Et puis ils bousculent un peu les traditions, ils attaquent de loin. Il y a toujours des surprises avec eux. C'est ce qui redonne un peu l'envie de suivre le cyclisme à la télévision et à la radio.
Est-ce que tu penses qu'un jour il y a un Français qui veut gagner le Tour de France?
Ben c'est difficile. Hein. Bon, il y en a qui progressent, il y a un petit déclic qui leur manque. Je sais pas lequel c'est. Mais pourquoi pas, il y a toujours eu des Français qui ont gagné. Il y en aura. Bon, c'est vrai qu'on est un peu au creux de la vague. Il leur manque encore un petit quelque chose. Mais j'ai bon espoir de voir un Français gagner d'ici quelques années. À la Française des Jeux, des jeunes là, qui nous surprennent un peu aussi, qui pédalent vraiment bien. Je pense que d'ici 4-5 ans, on va avoir un Français qui va arriver à nous gagner un Tour de France.
Le fait peut-être également qu'il n'y a pas de course contre la montre individuelle, ça c'est important.
Oui, ben après on peut pas être. Oui, maintenant il faut quand même pour arriver à gagner un Tour, il faut être coureur vraiment complet. Hein, mais il faut être grimpeur, il faut être rapide contre la montre, il faut savoir frotter, il faut parce que quand on passe sur des régions comme Paris-Roubaix là-haut, sur les pavés ou autres, il faut vraiment être un coureur complet et bon, on va arriver à en former un, en trouver un.
Baudu, tu penses qu'il a atteint sa plénitude?
Non, je pense qu'il va encore progresser un petit peu. Il a encore, je pense, 2-3 ans avant d'atteindre sa plénitude, parce qu'il fait des épreuves maintenant un peu plus importantes. Et puis la concurrence est de plus en plus rude aussi. Ce qui le forme et qui va nous le mettre à un certain niveau. Je pense que dans 2-3 ans, il sera au top et puis il pourrait nous décrocher quelque chose de beau.
C'est ce qu'on lui souhaite en tout cas. Hein.
Ouais, ben oui, voilà, tout à fait. Oui, en plus c'est quelqu'un de sympathique, d'accessible aussi. Et c'est pas, il y a, mais on a des jeunes champions là, quels qu'ils soient, qui sont le bois sur eux, ils sont sympas, on peut discuter avec eux, on peut les aborder, ils signent les autographes. On revient un petit peu au cyclisme d'autrefois. Où on pouvait les côtoyer facilement. On a eu un petit passage avec certains que je ne citerai pas, qui était un peu plus compliqué quand même.
Oui, moi, je suis à peu près de ton avis. Un petit Valentin Ferron là qui ne cesse que de progresser. Il a débuté au CCP Poitiers.
Oui, voilà. Un bon voisin aussi, qui était venu faire un contre-la-montre dans notre région à 12 ans, il me semble.
Oui, c'est
ça. Il l'avait remporté aussi, donc c'est important aussi d'avoir des épreuves comme Douza que notre ami Arthur Beauchaud défend et il a un grand mérite parce que c'est compliqué à organiser tout ça aussi.
Raymond, on arrive au terme de cette émission. Ça fait une heure qu'on est ensemble et mon Dieu, que le temps passe vite avec une encyclopédie vivante telle que toi, donc ça nous fait plaisir de t'entendre. Fédé, est-ce que tu as une dernière question à poser à Raymond?
Moi, j'aimerais bien qu'il puisse continuer à faire ce qu'il fait. Voilà, c'est parce que c'est quelqu'un, pour moi, qui a toujours été important. Si je suis ce que je suis aujourd'hui, eh bien, c'est grâce à des garçons comme Raymond. Donc, voilà, j'arrêterai. Je pense que j'aurais connu des gens bien.
Ouais, ben c'est gentil.
Merci Raymond à travers cette émission parce que tu le mérites.
C'est gentil d'aider, mais c'est un peu aussi grâce à toi si le cyclisme est bien défendu aujourd'hui et des gens comme toi, c'est malheureusement on en a plus beaucoup et on est à la recherche aussi parce que la roue tourne pour tout le monde. Mais moi, ce que je souhaite, c'est que on trouve la relève à plusieurs niveaux. Et puis moi, ce que je voudrais, c'est surtout que notre manifestation du jeudi de l'Ascension soit un succès, aussi bien le matin que l'après-midi. Pensez que le matin, c'est ouvert à tout le monde. Hein, c'est ouvert à tout le monde. Tout le monde peut faire un petit tour de vélo avec tous les types de vélos. Si vous avez des tenues d'époque, c'est aussi sympa, avec les chapeaux, avec les robes. Il faut qu'on redonne cette fête au village et puis cette envie de faire un tour de vélo quoi, en famille.
Une belle journée vous attend le 18 mai, le jour de l'Ascension en Ersac, du matin à 8h jusqu'au soir 20h.
Vraiment, merci de nous avoir fait partager ta passion du vélo, parce qu'on a bien senti que c'était pour toi une histoire d'amour, une histoire de passion. Donc merci de nous avoir fait partager ça avec toi. On te souhaite le meilleur en cette période un petit peu particulière qui est celle où on quitte le monde du travail pour entrer dans le grand âge qui est celui de la retraite. Mais comme je te le disais tout à l'heure, le meilleur est à venir. Donc encore une fois, merci pour tout Raymond. On te souhaite le meilleur et on te dit à très bientôt.
Et merci à vous de la famille. Profite de la famille Raymond.
Merci, j'irai vous voir un petit peu plus souvent.
Eh bien, quand
avec
tu
plaisir.
Veux.
Et j'amènerai la radio aussi, Radio Attitude, sur mon vélo. C'est ce que j'avais fait dans une manifestation où j'avais été participer dans la Vienne. J'avais mis la radio avec moi pour m'accompagner.
Ah, c'est vraiment gentil. C'est gentil. Bonne soirée, Raymond.
Bonne soirée à vous, à bientôt. Vous pouvez venir, hein, y a de la place le jeudi 18 mai.
Ben, j'y serai présent.
Merci à vous.